tableau de l'opération, une ombre qui pose le problème de l'adaptation humaine à l'absence de pesanteur. 11 novembre, Gemini 12, la dernière Gemini, s'envole. James Lovell et Edwin Aldrin vont confirmer tous les succès de leurs prédécesseurs en réalisant une fois encore la plupart des expériences importantes. Qui plus est, Aldrin va obtenir le premier brevet de travailleur de l'espace en bricolant à l'arrière et le long des parois de Gemini pendant 2 heures et 9 minutes. Pratiquement, l'hypothèque de la peur cosmique, de ce qu'on a appelé la peur cosmique, est levée et les astronautes expriment leur légitime fierté.
We tried real hard on our flight to please everybody, and I hope we've come halfway there. Thank you very much.
L'URSS et les États-Unis envoient à présent des sondes inhabitées sur la Lune. À ce petit jeu-là, ce sont encore les Soviétiques qui gagnent. En février 1966, ils posent Luna 9 sur notre satellite naturel.
L'objectif numéro 1 est beaucoup plus proche de nous.
Ma belle Lune!
Mémorable dans l'histoire spatiale, le 3 février, Luna 9 se pose en douceur sur le sol lunaire. Après de nombreux essais infructueux, les Soviétiques ont maîtrisé la technique du freinage progressif télécommandé au centième de seconde. Luna 9 photographie le paysage et montre qu'en dépit d'aspérités souvent aiguës, le sol lunaire est praticable.
Dis-moi la Lune, t'habites un coin qu'on ne voit pas bien, même quand on met nos grosses lunettes.
Plus tard, le 3 avril, les techniciens de Baïkonour inscrivent un nouvel exploit à leur actif. Ils placent Luna 10 sur orbite autour de notre satellite naturel. Luna 10 n'est pas équipée de caméra, mais son émetteur radio fonctionne parfaitement. Le lendemain, elle envoie au congrès du Parti communiste réuni à Moscou ce message musical, témoin à la fois du progrès scientifique et de l'attachement au symbole terrestre. Les Américains veillent. Leur laboratoire de Pasadena compte sur l'héritier direct des Rangers pour égaler la performance de Luna 9. Les faits vont leur donner raison. Le 2 juin, Surveyor atterrit en douceur sur la Lune. Les premières photographies transmises par Surveyor sont reçues en direct par des millions de téléspectateurs américains et européens. Elles confirment que l'homme pourra marcher demain sur la Lune.
Dis-moi la Lune, t'es si près de nous qu'il n'y a pas moyen.
L'atout des Américains dans la course à la Lune, celui qui est au cœur du programme Apollo, c'est Werner von Braun, ingénieur allemand et ancien nazi, qui a inventé pour Hitler les tristement célèbres V2, les premiers missiles balistiques de l'histoire. Récupéré par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de l'opération Paperclip, von Braun met au point pour la NASA les fameuses fusées Saturn V, les lanceurs des missions Apollo.
Saturn V aura plus de 105 mètres de hauteur quand elle s'élèvera sur la plateforme de lancement pour le voyage lunaire.
Werner von Braun.
Son poids sera de plus de 3 millions de kilogrammes, plus qu'un croiseur de bataille. Après un programme étendu de tests sur des orbites terrestres, nous lancerons la capsule Apollo dans l'ogive de Saturn V vers la Lune. Beaucoup de tests doit être effectué avec succès avant que nous puissions commencer l'alunissage. Après cela, nous serons prêts à utiliser Saturn V pour envoyer une capsule Apollo vers une mission autour de la Lune avec retour sur la Terre sans alunissage. Un peu plus tard, mais en tout cas avant la fin de cette décade, nous enverrons des hommes sur la Lune et les ramènerons sur la Terre, sainte, sain et sauf. Mais nous le ferons qu'après avoir rigoureusement testé la fusée et la capsule et après avoir obtenu la certitude que les astronautes auraient le maximum de chances d'accomplir leur mission et de revenir sur la Terre.
Les astronautes américains et les cosmonautes soviétiques le savent, au cours de ces missions périlleuses, ils prennent des risques insensés. La course à la Lune fait courir à ces hommes de grands dangers et parfois, la mort est au rendez-vous. 1967 est à ce titre une année noire.
C'était le 27 janvier. 6 ans après le vol de Yuri Gagarin, l'espace faisait ses 3 premières victimes, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, asphyxiés et brûlés lors d'une simple répétition au sol.
Les 3 astronautes sont morts asphyxiés au bout de 2 ou 3 minutes. Il n'a pas été possible d'établir avec certitude le moment du décès. Cependant, si les secours avaient pu dégager plus rapidement la capsule, peut-être les 3 hommes auraient-ils été sauvés. Il s'en est fallu, pensons, de 90 secondes.
2 mois plus tard, le meilleur pilote soviétique prend les commandes d'un vaisseau tout neuf.
Il est énorme, il pèse 50 tonnes, puis il est incliné de 52 degrés sur l'équateur. C'est important car c'est la trajectoire suivie par tous les engins soviétiques qui ont été lancés jusqu'à présent vers la Lune. Vous en saurez autant que nous lorsque je vous aurai donné le nom de son pilote, c'est le colonel ingénieur Komarov. Il a d'ailleurs adressé tout à l'heure un message très chaleureux au peuple soviétique. Ce devait être le dernier message de Vladimir Komarov.
D'après l'agence TASS, la mort de Komarov serait survenue dans les conditions suivantes. Le vaisseau spatial avait terminé sa mission et c'est à 7 km de la Terre, alors qu'il voulait ouvrir la coupole supérieure de son parachute, que les sangles se sont tordues et par conséquent Komarov est tombé en vrille.
Кому мы вручим звездную эстафету, кто продолжит штурм космоса, кто продолжит великое дело, которому отдал свою жизнь Владимир Михайлович Комаров. Да, дорога в космос, дорога к планетам...
Après un moment de découragement et de doute, Américains et Soviétiques se ressaisissent.
Et plus particulièrement les Américains, qui veulent absolument poser le pied sur la Lune avant 1970. Voilà pourquoi, à partir d'octobre 1968, les missions habitées du programme Apollo se succèdent. Apollo 7 décolle le 11 octobre 1968. C'est le vol des premières. Pour la première fois dans un vol spatial américain, il y a 3 astronautes à bord. Et il s'agit de la première mission à envoyer des images qui sont diffusées à la télévision. Le 7 février 1969, Frank Borman, le commandant de la mission Apollo 8, est chaleureusement accueilli à l'aéroport de Melsbroek, près de Bruxelles.
Thank you very much, sir.
D'abord, vous comprenez que je suis très très heureux d'être en Belgique. J'ai toujours considéré la Belgique comme un pays ami, un pays de paix parmi les nations. Je ne suis jamais venu auparavant. Ma famille et moi, nous visitons votre pays pour la première fois. Nous sommes impatients de le découvrir. Et je tiens spécialement à remercier les enfants qui sont venus aujourd'hui malgré le froid.
De retour sur Terre depuis seulement 1 mois et quelques jours, Borman effectue une tournée européenne qui passe notamment par la Grande-Bretagne, la France et la Belgique. Le bourgmestre de Bruxelles, Lucien Koremans, ne cache pas son plaisir de recevoir l'astronaute américain à l'hôtel de ville.
On behalf of the city council and in the name of the population of our capital.
Au nom du conseil communal de la ville de Bruxelles et de sa population, je vous souhaite la bienvenue. Colonel, nous vous félicitons, vous et vos 2 compagnons, pour votre exploit. Et je pense que je peux utiliser le mot « exploit » pour l'apport scientifique et l'aspect précurseur de cette mission. C'était également un grand exploit sportif.
La mission Apollo 10 quitte la Terre le 18 mai 1969. À bord du vaisseau spatial, 3 astronautes américains. Ils se dirigent vers la Lune, doivent s'en approcher au plus près et expérimenter toutes les manœuvres qu'effectuera 2 mois plus tard l'équipage d'Apollo 11. Comme une répétition générale grandeur nature. Ce n'est pas José Faustier, mais Henri-François Vanal, reporter à la RTB, qui assiste au décollage depuis Cap Canaveral, aux côtés de 400 journalistes de la presse internationale. Parmi les invités, triés sur le volet, on remarque le roi Baudouin et la reine Fabiola.
Le roi et la reine vont assister dans un instant au lancement. À cette ambiance de kermesse et de mondanité va succéder dans un instant l'angoisse, le cœur qui se serre, la prière, les doigts qui se croisent dans le dos et l'impression étrange et merveilleuse que nous participons à la naissance d'une époque, un peu comme nos grands-pères ont participé aux essoufflements des premières locomotives et au vol maladroit des premiers aéroplanes. Le ciel tropical de la Floride donne aux couleurs gris de la fumée et rose des flammes une teinte pâle. Et le bruit de Saturne, qu'aucun émetteur de télévision ne pourrait reproduire, le bruit qui nous arrive par ondes et par secousses et qui nous pénètre en nous martelant la poitrine.
Le 16 juillet 1969, la fusée Saturne V décolle de Cap Canaveral, emportant avec elle la mission Apollo 11, dont l'objectif est de déposer le premier homme sur la Lune. Après un voyage de 3 jours, le vaisseau spatial arrive à proximité de l'astre lunaire. C'est le moment pour l'équipage d'entreprendre une manœuvre délicate. Joseph Ostier, envoyé spécial de la RTB aux États-Unis, raconte.
Il y a maintenant quelques minutes, précisément, Collins, qui conduit, qui est le pilote de la cabine Apollo proprement dite, a donné un coup de frein. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, 59 secondes et 9 dixièmes très exactement, en principe, il a dû actionner le propulseur du module de service et freiner la vitesse qui était de 9200 km à l'heure environ pour la faire passer à 5700 km à l'heure environ. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour ne pas que la cabine passe à côté de la Lune et revienne vers nous, mais qu'elle commence à tourner autour de la Lune. Nous avons passé ici quelques instants, disons, assez désagréables. La mise en marche du moteur devait intervenir comme toujours, comme ce fut le cas avec Apollo 8 et avec Apollo 10, derrière la Lune, du côté de la face cachée. À ce moment-là, pas de contact radio possible. Ce moteur devait être mis en marche pendant 5 minutes et 59 secondes. Et quelques minutes plus tard, on devait recevoir ce que l'on appelle un signal d'acquisition, c'est-à-dire un signal automatique grâce à des antennes spéciales et qui devait faire savoir à la Terre que tout s'était bien passé. Eh bien, ce signal n'est jamais arrivé. Il a fallu attendre la fin du blackout radio pour les voix pour enfin entendre Armstrong dire « Ok, parfait, tout est bien, tout est parfait ». Bon, pendant, disons, 7 à 8 minutes, on a eu assez peur. On s'est demandé si le moteur avait fonctionné. On a craint un moment que la manœuvre ait été ratée et que les astronautes reviennent purement et simplement à leur point de départ et soient obligés d'amerrir dans 2 jours sur Terre sans avoir fait l'exploration lunaire.
Nous sommes le 20 juillet 1969. L'équipage d'Apollo 11 entreprend enfin de se poser sur la Lune. Voici le reportage diffusé ce jour-là en direct sur les radios de la RTB. Joseph Ostier est bien entendu au micro et fait vibrer les auditeurs belges depuis Cap Canaveral.
Allô, allô, allô.
Oui, vous êtes sur antenne.
Oui.
Vous êtes sur antenne, Joseph Ostier.
L'altitude est maintenant réduite à moins de 200 mètres. Armstrong, qui est le chef de la mission Apollo 11, vient de dire « Nous y allons ». All is good, nous y allons, nous y allons. Attention, nous y sommes pratiquement. Il ne reste plus que quelques secondes. Et l'homme, par l'intermédiaire d'une machine, aura touché la Lune. Mais nous savons déjà que le lieu choisi pour l'atterrissage est parfait puisqu'ils le voient avec leurs yeux. Nous attendons de nouvelles informations. Il est à 30 mètres du sol de la Lune. Il oscille légèrement, ce qui ne paraît pas très grave. Donc il continue à chercher un terrain absolument parfait. Ils ont encore avancé de quelques degrés. Ils savent qu'ils ont encore une petite réserve. L'homme est sur la Lune. Je puis vous annoncer de manière officielle, et vous l'avez entendu comme moi, écoutez les journalistes applaudir.
L'homme est sur la Lune. Je vous laisse entendre leur voix. J'ai devant moi une émission de la télévision américaine que je viens d'accrocher et les deux présentateurs, je vous le signale, sont en train de pleurer. Je vous assure que franchement, il est extrêmement difficile de ne pas faire comme ça.
Un peu plus de 6 heures après l'alunissage, Neil Armstrong reçoit l'autorisation d'ouvrir le sas du LEM et de descendre vers l'inconnu. En Belgique, il est 3h56, nous sommes au milieu de la nuit, ce 21 juillet 1969.
Et sur l'échelle, il descend lentement. Vous voyez ce pied pendre dans le vide. Il cherche un point d'appui. Il cherche à trouver un équilibre parfait sur un barreau, mais ça n'a pas l'air du tout facile. Je vous l'ai dit, c'est la partie la plus dangereuse. Maintenant, nous voyons, presque comme une ombre, disons-le, mais nous voyons l'ensemble du corps d'Armstrong, revêtu de sa combinaison, de son scaphandre lunaire, et derrière ce sac à dos qui contient tout l'équipement du survie, qui lui permettra pendant plus de 3 heures encore de séjourner sur la Lune. Donc, il est maintenant... Voilà le moment. Voici le moment, il a mis le pied sur la plateforme et le voici sur la Lune.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Devenu héros parmi tous les héros, les trois astronautes d'Apollo 11 effectuent durant l'automne 69 un tour du monde. Les États-Unis veulent ainsi affirmer qu'ils sont allés sur la Lune au nom de l'humanité tout entière. Armstrong, Aldrin et Collins visitent 23 pays en Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie et Océanie. Ils font halte en Belgique le jeudi 9 octobre dans l'après-midi. Une foule très nombreuse, on l'imagine, les attend à l'aéroport et dans les rues de Bruxelles.
L'avion présidentiel, l'avion mis à la disposition des trois astronautes par le président Nixon, vient de s'arrêter à l'instant même devant une nuée de photographes et de journalistes à l'aéroport militaire de Millsbrook. Et dans quelques instants, les trois conquérants de la Lune, c'est-à-dire Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, accompagnés de leurs épouses, vont sortir et vont être accueillis avec beaucoup de chaleur par des centaines d'écoliers et aussi beaucoup d'adultes qui les attendent depuis plus de 2 heures avec énormément d'impatience. Hey!
Of the moon, welcome to Belgium.
Le trio est reçu par le roi et la reine, puis, au nom du gouvernement, par le vice-premier ministre André Coles. Neil Armstrong prend ensuite la parole devant l'ambassadeur des États-Unis.
Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour vos aimables paroles. Nous sommes particulièrement sensibles.
Before our launch, sent us a very kind message of good wishes expressed.
Neil Armstrong rappelle qu'avant le lancement d'Apollo 11, la Belgique avait envoyé aux trois astronautes un message et des vœux particulièrement chaleureux.
1989, Buzz Aldrin, un des trois astronautes de la mission Apollo 11, se souvient 20 ans après.
Je retiendrai les moments qui ont suivi l'alunissage. Tant de choses se sont produites si vite lorsque nous nous préparions à alunir. Il y avait en plus les signaux d'alarme des ordinateurs, la puissance décroissante des moteurs et toutes ces données chiffrées dans les transmissions. Mais dès que nous avons touché le sol, lors des premiers instants où nous avons pu regarder autour de nous et voir l'horizon, nous avons réalisé que nous avions réussi notre mission. Nous étions sur le sol lunaire.
Vous le réalisiez pleinement à ce moment ?
Nous en étions conscients depuis le début, mais ce moment était le premier instant où nous avons pu lâcher la pression.
Peut-être, vous qui m'écoutez, êtes-vous blasé par tant de récits d'exploits cosmiques. Peut-être. Et c'est parfaitement compréhensible. Mais nous ne pouvons nous défendre d'un sentiment d'admiration à l'égard de ces hommes qui ont bravé le danger et vaincu la peur, à l'égard de ces hommes qui ont risqué le pire au service de la science et du progrès.